Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, aujourd'hui, dans les studios à Melbourne, on va avoir le plaisir de parler d'une artiste qui est partie il y a un an, presque tout juste, mais qu'on adorait ici, c'était Mirka Mora. Et on a Sabine Codd avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Mirka Mora, vous avez écrit un livre, on va en parler dans quelques instants. C'était une personne atypique, mais on l'aimait tellement.
Oui, c'était une personne très intéressante. Et en fait, les gens la connaissaient beaucoup pour sa personnalité, très différente, très excentrique. Mais c'était surtout une artiste et c'était ça qui était important pour elle. Et moi, j'ai surtout travaillé avec elle sur son art et sur sa façon de faire de l'art et comment elle... Sur Mirka au travail, j'ai travaillé.
Alors expliquez-nous un petit peu, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, les gens qui connaissent Mirka et son histoire, à quel point elle a eu de l'influence dans l'art, l'art moderne en Australie. Elle est arrivée à un moment où elle a été vraiment... c'est une des personnes qui a emmené un nouvel élan dans l'art en Australie.
Elle était en fait assez marginale dans son art et dans son style, puisqu'elle avait un style un peu inspiré du folklore, de la mythologie. Et c'était quand même l'époque... qui voyait plutôt l'art abstrait d'Australie. Donc elle a continué son bonhomme de chemin et puis elle a persisté. Elle a vraiment imposé sa façon de voir et son style qui est très unique. Et puis elle a surtout eu cette caractéristique incroyable qu'elle a utilisé un tas de techniques. Vraiment, j'ai rarement vu des artistes toucher à autant de techniques et avec autant de succès dans chacune de ces techniques. Elle était très innovative et c'était vraiment intéressant de la voir... se promener au milieu de ces matériaux et choisir et improviser en fait dedans.
Est-ce qu'elle a eu des périodes, Picasso a eu certaines périodes, d'autres artistes ont certaines périodes, est-ce qu'on peut dire que c'est dédié dans des périodes où elle c'est plutôt c'est un mélange de tout et elle a vraiment touché à peu près à tout?
Elle a touché à tout, je dirais pas qu'elle a eu vraiment des périodes, mais elle a eu... des périodes où elle utilisait plus certaines techniques que d'autres. Elle a fait beaucoup de dessins au fusain et au pastel dans les années 70, 60. Et puis ensuite, elle a fait des mosaïques beaucoup. Elle a toujours fait de la peinture à l'huile. Ça, c'est le fil constant tout au long de sa carrière. Elle a fait énormément de peinture murale des années 80 aux années 90 dans Melbourne. Et puis, elle a fait surtout aussi ce qui l'a rendue assez célèbre, c'est ce qu'elle appelait les soft sculptures, ces poupées, qui sont des sculptures en coton, rembourrées et peintes par-dessus, qui sont extrêmement originales et qui sont vraiment une des signatures de Mirka.
Absolument. Et on retrouve encore des Mirka un peu ici et là. Je me souviens que dans un bar à East Melbourne, au Tipler, ils avaient retrouvé une peinture à l'étage en faisant des rénovations. On en retrouve encore. Il y a encore des marques de Mirka qu'on connaît peut-être pas encore tout.
Connaît peut-être pas tout, non. Ce bar, c'était quand même le restaurant de Mirka et George auparavant. Donc, elle avait décoré tous les murs, comme elle avait fait plus tard à Tolarno. Tolarno est toujours resté un restaurant avec les peintures de Mirka qui sont exposées.
Et c'est protégé. Ça a été en danger il y a quelques temps et c'est protégé.
Oui, elles sont inscrites à Heritage Victoria et je les ai d'ailleurs restaurées il y a quelques années. Et donc, elles sont bien. Mais dans le bar Tipler, la peinture avait été recouverte, mais pas vraiment repeinte. Il y avait un mur qui avait été construit devant, ce qui prouvait que les gens respectaient ça. Et ils l'ont retrouvé en faisant des travaux.
Absolument. J'étais là quand ils l'ont ouverte au public. C'était émouvant.
Oui, c'était une très belle peinture qui datait de la fin des années 50, je crois.
Oui, absolument. Ah, c'était superbe. Cette relation avec Georges, elle était très, très amoureuse de Georges. Georges, c'était un peu la personne qui lui a donné l'opportunité de vivre de son art, d'être elle-même aussi. Il lui a laissé l'opportunité d'être elle-même dans une période où la relation entre la femme et l'homme était encore un peu différente qu'elle est aujourd'hui.
Oui, moi, j'ai jamais connu Georges. Elle m'en a beaucoup parlé en me disant « Oh, tu aurais adoré mon mari ». Mais je pense qu'ils avaient un couple, effectivement, très ouvert et très moderne par rapport aux standards de l'époque. Oui,
ouais, tout à fait. Quand on parle de Mirka aujourd'hui, elle est décédée il y a un an. Il y a encore beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui aiment le travail de Mirka. C'est important pour l'avenir, pour pouvoir réfléchir à ce que Mirka va pouvoir laisser comme empreinte, je pense, entre guillemets et dans le bon sens du terme, le folklore local.
Oui, elle est très importante, je crois, pour l'histoire de Melbourne, parce que d'abord, elle a participé d'une part avec ses restaurants qui n'étaient pas que des restaurants, c'était aussi l'endroit où toute la société artistique se retrouvait et discutait. Et puis, elle a laissé beaucoup d'œuvres publiques. Donc, il y a en bas, ici, le mural à la gare. Il y a une très belle mosaïque à Saint-Kilda, au bout de la jetée. Il y a plusieurs peintures murales dans des...
Qui a été rénovée il y a quelque temps, parce qu'un camion avait roulé dessus.
Oui, c'est ça. C'est moi qui l'avais rénovée, avec Mirka, d'ailleurs. Elle était venue m'aider, me donner des conseils. Et puis... Donc elle a beaucoup laissé son empreinte et puis c'est un art qui est vraiment très actuel, qui ne vieillit pas et qui n'est pas non plus politiquement daté. Les gens l'aiment beaucoup parce que c'est joli et en plus techniquement c'est vraiment magnifique. Et c'était pour ça aussi que j'avais écrit ce livre, c'est pour mettre l'accent sur le fait que Mirka était une professionnelle exemplaire et qui travaillait extrêmement dur et qui a été extrêmement innovative dans toutes ses techniques, mais qui a toujours beaucoup beaucoup travaillé. Elle a étudié les maîtres anciens, elle a vraiment s'est inspirée de leur technique, mais elle leur a toujours donné un petit twist personnel. Elle a mis sa propre signature, ça c'était Mirka, elle ne pouvait pas faire quelque chose comme les autres.
Alors on le comprend dans votre livre, vous avez une relation très proche avec Mirka. Vous avez vécu à côté d'elle pendant... Parce que vous avez touché son travail, vous avez restauré son travail, oui. C'est important en tant qu'artiste.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, parce que on m'avait demandé de restaurer le mural à Flinders Street, et donc j'ai contacté Mirka, parce que j'imaginais pas de le faire sans elle, et donc on a eu beaucoup de discussions, on a choisi les matériaux ensemble, elle était déjà un petit peu âgée pour pouvoir le faire elle-même, mais je lui ai dit qu'elle pouvait intervenir à tout moment, donc elle est venue plusieurs fois me surprendre, mais elle a jamais choisi d'intervenir, donc elle était contente de ce qu'elle voyait. Et puis on a eu des discussions qui étaient tellement intéressantes que je me suis dit il faut continuer ça. Donc j'ai continué cette recherche avec elle et pendant 4 ans je l'ai vue assez régulièrement et on a beaucoup parlé de son art. Je la voyais dans son atelier et où je l'emmenais voir des choses. On allait voir ses œuvres avec elle et on en parlait, on parlait beaucoup de choses. Elle me sortait des choses de ses tiroirs et technique après technique, et puis ensuite on les mélangeait ensemble, et puis après moi j'ai remis ça en relation avec ce qui se passait dans le milieu artistique et dans le milieu historique à l'époque, et j'ai vu à quel point elle s'inscrivait parfaitement en tant que femme, en tant qu'artiste, dans cette période, et pourquoi elle peut être un rôle modèle, je parle anglais là, mais... Mm-hmm. Pour les générations futures et particulièrement pour les femmes artistes.
Et surtout quand on comprend d'où elle vient, oui. Comment elle a été affectée avec la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, la façon dont elle a été sauvée par sa mère. On sent vraiment qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a une vraie histoire forte.
Oui, sa vie est assez extraordinaire et c'est un miracle. Alors elle n'en parlait pas beaucoup... Auparavant, j'ai cru comprendre, elle était très occupée, ils avaient changé de pays et elle était occupée à vivre au maximum. Et puis, en vieillissant, elle en a reparlé et vraiment, elle disait que c'était miraculeux. Et moi, je lui disais, tu te rends compte la joie que tu as apportée à tous ces gens autour de toi et ce qu'on aurait manqué sinon. Donc, c'était aussi une des raisons qui faisait qu'elle embrassait la vie à plein bras, quoi.
Absolument. Et alors, j'ai une autre question par rapport à la fresque ou la mosaïque qui est à Flinders Street Station. Oui. Est-ce que vous l'avez rénovée, cette fresque?
Oui.
Elle est superbe. Est-ce que le fait... Elle n'est pas vraiment mise en valeur dans la gare. Est-ce que ça vous touche ou pas? Aujourd'hui, la gare, oui, de Flinders Street ne la met pas vraiment en valeur.
Je ne trouve pas qu'elle soit pas vraiment mise en valeur. Elle a été faite pour cet endroit-là. Il y a beaucoup de gens qui passent devant quand même. Ce n'est pas seulement les gens qui vont à la gare, c'est les gens qui vont au musée, c'est les gens qui vont au jardin. Elle est quand même dans un lieu extrêmement central. À l'époque où Mirka l'a fait, elle disait qu'il y a, je crois, à peu près 10 000 personnes qui passaient par jour devant. Je crois que ça a été multiplié par 10 aujourd'hui.
Ouais, peut-être. Ouais. Non, je pensais simplement...
Les gens passent devant, ne la remarquent pas toujours, c'est vrai.
Oui,
mais...
c'est ça surtout. Après, c'est peut-être... Voilà, moi, je ne suis pas un artiste, donc peut-être la mise en avant, c'est peut-être autre chose par rapport à quelqu'un de lambda comme moi.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand je vois des gens postés devant, avec le vélo posé dessus, en train de fumer une cigarette, ou est-ce que c'était important, justement, si on parle de l'explication de cette fresque, est-ce que c'était important pour elle d'avoir cette fresque qui s'inscrive dans la vie de Melbourne tous les jours?
Absolument, oui. L'emplacement n'avait pas été choisi par elle, c'était un concours qu'elle avait gagné, d'ailleurs. Mais ce qui était très important pour elle, il y a plusieurs techniques dans cette peinture murale. Et la partie basse est en fait quelque chose qui est creusé un peu et peint, un bas-relief peint. Et pour elle, c'était très important que les enfants puissent toucher. Donc comme de temps en temps, ce bas-relief est abîmé parce que les gens, comme vous dites, s'appuient contre, j'avais discuté avec elle de mesures de protection. Elle a dit, il est hors de question qu'on mette quoi que ce soit devant, je veux que les gens puissent toucher. Donc on a transigé en mettant cette petite chaîne qui est visuellement pas très intrusive, mais qui rappelle aux gens, quand ils reculent, que bah, y a quand même une peinture derrière. Et donc, ça marche pas trop mal, puisque depuis 10 ans, elle a été beaucoup moins abîmée. D'accord. C'était surtout accidentel, je crois.
Voilà, je ne l'avais pas compris, en fait. mais oui, je suis d'accord avec vous, en fait. D'accord, il y a vraiment beaucoup de monde qui passe devant, et c'était important pour elle que son art soit pas forcément que dans les musées pour Mirka.
C'était très important. Elle avait peint un tram aussi. Elle peignait, elle faisait des workshops pour les écoles et pour les adultes. Elle voulait vraiment sortir l'art. Et ça, c'était une... ça allait tout à fait dans les mouvements artistiques des années 80 dans le Victoria, avec community art et les peintures qui étaient faites avec des écoles, avec... durant des festivals, elle était une partie très intégrante de ça.
Est-ce qu'elle vous manque aujourd'hui ?
Mirka, je pense très souvent à elle, oui, parce qu'elle a été quand même une grande partie de ma vie. On avait une bonne relation de travail, vraiment très amicale. Et puis, elle a quand même laissé un grand vide. C'était une personnalité assez large. Mais je suis quand même ravie d'avoir pu la côtoyer pendant longtemps. Et puis je suis ravie avec ce livre de pouvoir continuer à la célébrer et de la faire vivre aussi.
Tout à fait. Alors parlez-nous de ce livre justement. Donnez-nous le titre. Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre?
Alors ce livre, il s'appelle Mirka Mora, A Life Making Art. Et on peut le trouver bien un peu partout, dans toutes les bonnes librairies. On le trouve à la NGV, on le trouve dans les galeries d'art. C'est un livre qui parle de Mirka au travail, qui donc montre... j'ai un regard de restauratrice, puisque c'est mon métier, et donc je pars des matériaux, et Mirka aimait bien cette approche aussi. Donc je regarde ce qui se passe avant l'œuvre finale, c'est-à-dire comment ça a été fait, pourquoi, quels sont les procédés, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'artiste, pourquoi il choisit tel ou tel matériau à ce moment-là, et puis comment il les assemble. Le même matériau utilisé par deux artistes différents, ça donnera des choses complètement différentes. Et j'ai aussi mis ça en relation avec la période, avec les mouvements sociaux, avec la vie personnelle de Mirka, parce que son histoire est vraiment très, très écrite dans sa technique et dans ses peintures et dans ses œuvres d'art.
Avec on peut en parler, hein, le WOM. Elle a eu un problème de santé.
Oui, elle a eu un cancer.
Elle a eu un cancer, tout à fait. Et en fait, la représentation de son utérus est presque partout après ça.
Enfin, oui, elle la transformait présente. Souvent en cœur, où c'est même parfois représenté par les vides. Si on regarde les vides entre les personnages, ça représente une espèce de cœur ou de bombe, si on veut. Mais même pour très souvent, ce sont des autoportraits ou des situations. Elle se met en scène, mais elle met aussi en scène sa vie. Sa mère était couturière, elle-même, elle cousait toujours ses robes, et c'est pas un hasard non plus si elle s'est mise à faire des broderies, des peintures, des poupées peintes, etc. Elle mettait en relation tous ses talents, et puis il faut pas oublier que c'est comme ça qu'elle est quand elle est arrivée à Melbourne, c'est comme ça qu'elle a gagné sa vie au début en tant que couturière.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Quand vous repensez à cet atelier, à l'endroit aussi chez elle, hein, son appartement,
oui, oui.
Qui était
à Richmond,
voilà, juste incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, de prendre un café avec elle, juste oui. Elle et moi, et de prendre un café à table, sur sa table carrée au milieu de tout son brouhaha qui était artistique. C'était juste incroyable comme endroit.
Il y avait beaucoup de choses, oui, oui. J'y ai passé des très nombreuses heures. Il fallait pousser des choses, en fait, littéralement, pour pouvoir poser sa tasse de café. Mais ça lui parlait et ça donnait, ça lui rappelait des souvenirs. Tous les objets avaient une histoire. Elle connaissait l'histoire de chaque objet, de chaque livre. Et on avait des discussions... Quand on allait voir Mirka, il fallait avoir du temps, hein, parce que
oui. Mais la discussion partait. C'était bon de prendre le temps avec elle.
Oui, absolument. Absolument. Et cet atelier était absolument un espèce de capharnaüm, mais très organique et très vivant. Et bon, il a été bien maintenant... sans elle, c'est un peu... Sa présence aurait été très forte, mais bon.
Vous y êtes retournée après son décès ?
Non.
Non.
Non, non, j'ai gardé mes souvenirs.
Oui, pareil. Ouais. Merci d'être passé nous voir et nous avoir un petit peu éclairé, faire repenser à Mirka ici dans le programme. Merci.
Merci de m'avoir invité.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.